Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu.
Remettons-nous encore une fois dans le contexte de ce dernier repas. L'atmosphère est extraordinairement tendue et on sent qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi. On sait que les chefs du peuple et les grands prêtres ont décidé de tuer Jésus. Il est recherché partout. Il y a quelques jours encore, on l'acclamait à son entrée à Jérusalem. Mais on sent que Jésus est grave. Non pas triste, mais grave. Il s'est levé de table pour laver les pieds de ses disciples, au grand scandale de Pierre. Et c'est finalement ce geste étonnant et même tout à fait inattendu qui a décidé Judas. Très vite après, Judas est sorti pour accomplir son œuvre, comme dit Jésus, pour trahir Jésus, pour le vendre. Et c'est une fois Judas sorti que Jésus dit cette phrase un peu énigmatique, un peu difficile à comprendre objectivement. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. La gloire, le thème de la gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire ? Glorifier quelqu'un, donner la gloire à quelqu'un, c'est donner du poids à quelqu'un. C'est donner de l'éclat à quelqu'un. C'est mettre ce quelqu'un en pleine lumière. La gloire, c'est la victoire de l'amour, la victoire, la puissance de l'amour, la toute-puissance de l'amour. C'est au moment où Judas sort de ce repas, au moment où il va accomplir cette trahison décisive pour Jésus, que Jésus annonce qu'il sera glorifié par le Père. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Il y a une glorification réciproque. La gloire de Dieu apparaît dans toute sa lumière par l'œuvre que Jésus va accomplir maintenant. Cette œuvre, c'est la passion, l'amour jusqu'au bout. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la plénitude. Par cette œuvre d'amour, Jésus glorifie son Père. Et le dernier mot qu'il prononcera avant de mourir, c'est « Tout est accompli ». Cette glorification est parfaitement accomplie. Et le Père glorifiera le Fils, il manifestera en lui la puissance de l'amour. Jésus ressuscitera, il meurt, il ressuscite. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la recevoir de nouveau. Jésus recevra de nouveau cette vie qui fera de lui le triomphateur de la mort, le vainqueur de la mort. Dieu est glorifié par le don de la vie du Fils. Le Fils a aimé son Père jusqu'à accomplir, jusqu'à la fin, cette obéissance du serviteur, cette confiance du Fils, abandonné à son Père. Qui m'a vu, a vu le Père, disait Jésus à Philippe, qui lui demandait de comprendre un peu plus où il fallait aller. Qui m'a vu, a vu le Père. La vie de Jésus est un reflet, un éclat de la gloire de Dieu. Voir Jésus, c'est voir la splendeur de l'amour de Dieu. Voir Jésus n'importe où, pas n'importe comment, voir Jésus qui offre sa vie. C'est ce que Marie, elle sera la seule à le voir encore, à ce moment-là, c'est ce que Marie verra au pied de la croix. Elle voit l'horreur que tout le monde a vue, l'horreur indescriptible de la passion et de la mort de Jésus, mais Marie voit déjà dans la foi pure, elle voit déjà la gloire de l'amour. Elle voit déjà la splendeur, le rayonnement de l'amour. Cet amour de Dieu n'est pas un amour triomphant à la manière des hommes. Et nous l'avons déjà dit, cet amour, cette manifestation de l'amour de Dieu renverse complètement l'idée que nous nous faisons de Dieu depuis la chute, depuis le péché. Nous nous faisons de Dieu une idée complètement fausse, qui est une idée de la puissance à la manière des hommes, une puissance dominante, une puissance qui écrase. La puissance de Dieu est une puissance d'amour qui s'efface, qui se donne, qui donne sa vie jusqu'au bout. Alors Jésus peut donner son commandement nouveau, radicalement nouveau, ancien, comme dira saint Jean, mais nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce commandement est ancien parce que depuis le début, on savait qu'il fallait s'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement, il est donné dans les tout premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais ce qui est nouveau et radicalement nouveau, c'est « aimez-vous comme je vous ai aimé ». Le modèle est achevé désormais. On peut imiter le Christ dans l'amour jusqu'à la fin. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ce commandement rassemble tous les autres commandements. Ce commandement récapitule tous les autres commandements. Il n'y en a plus qu'un seul. Aimez-vous, et basta. Non pas aimez-moi. C'est vraiment étonnant, il faut le dire pour vraiment y réfléchir, le méditer, le contempler. Jésus ne part pas en disant aimez-moi. Jésus part en disant aimez-vous. Aimez-vous comme je vous ai aimé. La vie n'a de sens que si elle est donnée. Dieu a créé l'homme à son image. Le Fils est tout entier vers le Père, comme le Père est tout entier donné au Fils. À l'image de Dieu, le Fils donne tout à son Père. Et le Père et le Fils sont liés dans un échange commun d'amour qui est l'Esprit Saint. Dieu crée l'homme à son image. À son image, il le fit, homme et femme, il les fit. Pour que, ensemble, hommes et femmes, pour que dans la nature humaine, on puisse vivre la vie même de Dieu qui est le don mutuel. Donner l'un à l'autre, consacrer l'un à l'autre. Ma vie n'a de sens que si elle est donnée. Donnée non pas seulement à ceux qui nous aiment. Si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens font autant, dit Jésus. Aimez-vous? Aimez aussi ceux qui ne sont pas aimables. Aimez même vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Dites du bien en réponse au mal qu'on vous fait. Folie. Oui. Oui, folie aux yeux des hommes, sagesse aux yeux de Dieu. Le langage de la croix, comme dira saint Paul, est un langage de folie pour les hommes, mais c'est la sagesse de Dieu qui se manifeste. J'aime l'autre, non pas seulement parce qu'il est aimable. J'aime l'autre pour qu'il soit aimable. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Nous sommes pécheurs. Dieu nous aime pour que nous soyons de nouveau aimables et capables d'aimer. L'amour vient de Dieu, l'amour nous a été donné pour que nous puissions le vivre, en vivre et le vivre dans un amour réciproque désormais. Est-ce que toi, tu aimes ta femme parce qu'elle est aimable? Est-ce que tu aimes ton mari parce qu'il est aimable? Ou est-ce que tu l'aimes parce que tu veux qu'il soit plus aimable encore? Jésus ne nous commande pas un amour de sentiment. Jésus nous commande un amour de charité. Un amour de charité qui est impossible à l'homme parce qu'il ne vient pas de l'homme, c'est un don de Dieu. À l'origine, l'homme, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire chacun d'entre nous, j'ai refusé de recevoir l'amour de Dieu pour l'échanger, pour le transmettre dans des gestes d'amour. J'ai voulu faire l'amour, j'ai voulu que l'amour vienne de moi. Et je me suis planté parce que l'amour a été réduit à un sentiment. Le sentiment est éphémère, il disparaît. Jésus m'a aimé, il m'a aimé jusqu'à donner sa vie pour moi, alors que je n'étais pas aimable, pour que je puisse, en recevant cet amour, devenir capable à mon tour d'aimer comme il aime. C'est vrai, c'est l'amour qui fait vivre. Et je le sais bien par expérience, nous le savons tous. Quand nous avons fait une bêtise, quand nous sommes coupables, nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous condamner. Nous avons besoin d'être aimés, d'être consolés, d'être encouragés. Nous avons besoin qu'on nous manifeste un amour qui nous éveille, un amour qui nous redonne confiance. Non pas quelqu'un qui me dise « mon péché, je le sais, je le connais ». Quelqu'un qui me dise « l'amour qui est vainqueur de tout ». L'amour fait vivre. L'amour donne la vie. L'amour, c'est bien simple, c'est la vie. Sans cesse, le pape François nous appelle à cette réalité. Que nous vivions une Église, non pas pour condamner le monde, non pas pour juger le monde, non pas pour être redresseur de tort dans le monde, non pas pour d'abord enseigner une doctrine. Bien sûr, elle est nécessaire, cette doctrine. Bien sûr, elle est nécessaire, la vérité. Mais d'abord et avant tout, manifester l'amour comme Jésus a manifesté l'amour de son Père. Jésus n'est pas venu d'abord redresser les torts, Jésus est venu d'abord manifester une miséricorde inattendue, une miséricorde impossible à imaginer. Et c'est dans cette miséricorde que je peux retrouver le chemin de la vérité, parce qu'amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Nous sommes dans ce monde pécheur, à tout vouloir ramener à nous. Je m'épuise à attirer les choses à moi. Je m'épuise à vouloir sans cesse satisfaire mes envies, mes désirs, mes besoins. Et ça me rend malheureux. Chaque fois que je m'occupe de moi-même avant de m'occuper des autres, je suis malheureux. Je suis malheureux parce que je ne suis jamais satisfait. Ce monde, notre monde, tellement centré sur lui-même, notre monde tellement individualiste, est un monde malheureux et même, nous le savons trop bien, un monde terriblement angoissé. Aimez-vous. Un monde où on s'aime est un monde tellement reposant, où on s'aime vraiment. Alors à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mon Église. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mon corps, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On reconnaîtra que vous êtes mon Église, que vous êtes mon corps, non pas au bel enseignement que vous donnerez, non pas aux magnifiques cérémonies liturgiques que vous célébrerez. Bien sûr, c'est important la liturgie, bien sûr, c'est important le décorum. Mais s'il n'y a pas d'amour, tout cela est vain. Et tout cela finalement conduit à un contre-témoignage. C'est l'amour mutuel que vous aurez les uns pour les autres, à l'image de mon amour, qui convaincra le monde. Aucun argument, aucun raisonnement ne pourra persuader le monde. Nous le savons trop bien. Si la vérité était obligatoire et si elle s'imposait d'elle-même, on le saurait. Jésus lui-même a été crucifié et il accepte justement de monter sur la croix pour manifester cet amour insensé de Dieu. Il s'en retournait, dit l'Évangile, en se frappant la poitrine. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. C'est l'amour offert, c'est l'amour crucifié, c'est l'agneau immolé qui est triomphant. Oui, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume. Et saint Paul en sait quelque chose. Lui qui, après son discours à Antioche de Pisidie, a été lapidé. Lapidé, c'est-à-dire frappé à mort. Comment s'en est-il sorti? Nous ne savons pas. Peut-être a-t-il été protégé par ses proches, finalement. Par miracle, il s'en est sorti. Mais il sait, lui, le poids des épreuves, la faim, les fatigues, les marches sans fin. Mais il sait aussi, et il l'écrit, il en témoigne, que c'est cela qui rend heureux. C'est cela qui donne du courage. Jésus lui-même en a témoigné auprès de ses apôtres et de ses disciples. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire? Pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Mais la souffrance est une conséquence du péché. À cause du péché, l'amour ne peut plus se manifester autrement que dans la souffrance. C'est très impressionnant. Comment se fait-il que l'amour fasse tant souffrir? Parce qu'à cause de nos péchés, à cause de la dureté de notre cœur, mais c'est notre expérience quotidienne, nous le savons bien. À cause du péché, c'est-à-dire à cause de cet égocentrisme, à cause de cet égoïsme, à cause de cet orgueil, l'amour fait souffrir, parce que l'amour m'oblige à sortir de moi, l'amour m'oblige à me dépasser moi-même et à dépasser les difficultés que je rencontre chez les autres. L'amour m'oblige à dépasser ce qui n'est pas aimable chez les autres. Oui, c'est une souffrance, mais c'est aussi la victoire de l'amour, et c'est cela qui glorifie Dieu. Grâce à Dieu, grâce à Jésus qui est ressuscité, tout devient possible. Grâce à l'Eucharistie qui est le corps du Christ, ça n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est lui qui vit en moi. Alors il est vainqueur en moi. Alors l'amour en moi devient possible. J'ai vu, dit saint Jean dans l'Apocalypse, j'ai vu la Jérusalem d'en haut, qui descendait d'auprès de Dieu. C'est intéressant, la Jérusalem qui vient d'auprès de Dieu. C'est une Jérusalem qui descend, non pas quelque chose qui monte. C'est un don de Dieu. La vie nouvelle, la ville nouvelle, la Jérusalem, la cité de Dieu, l'Église est un don de Dieu. Quelque chose que nous construisons ensemble avec Dieu, par lui et en lui, mais c'est lui qui en est la source, c'est lui qui en est le cœur, c'est lui qui en est la lumière, c'est lui qui en est la vie. C'est vrai, quand nous regardons notre Église aujourd'hui, quand nous regardons notre monde aujourd'hui, on se dit, est-ce que tout cela est possible? Est-ce que cela est bien réel? C'est notre mission paroissiale. C'est notre mission familiale à chacun d'entre nous, mais c'est notre mission paroissiale de faire que dans un quartier comme le nôtre, cette réalité soit visible. Que les gens qui passent devant l'Église, que les gens qui visitent l'Église par hasard, que les gens qui nous voient vivre puissent être étonnés, puissent être surpris, puissent être interpellés par notre manière à nous de vivre les chrétiens. À cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et en fêtant saint Philippe et saint Jacques, nos saints patrons, nous nous rappelons la mission que Dieu nous donne, la mission que Dieu nous donne pour notre quartier. Nous sommes responsables de ce que les gens qui vivent autour de nous voient, disent de l'Église. Qu'en disent-ils? Qu'en pensent-ils? Demandons à la Vierge Marie, mère de tendresse, mère de paix, mère qui sourit à celui qui est pécheur, mère qui se réjouit de la conversion du bon larron. Demandons-lui de nous apprendre à cesser de dire du mal des autres. Demandons à la Vierge Marie de nous apprendre à ne plus nous juger nous-mêmes, même intérieurement, à nous regarder avec bienveillance, avec confiance, toujours avec un esprit critique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de gober n'importe quoi. Il ne s'agit pas de croire n'importe quoi, il ne s'agit pas d'accepter ou de tolérer n'importe quoi. Il s'agit d'être bienveillants les uns pour les autres et d'accepter que nous sommes tous faibles, tous fragiles, tous pécheurs. Mais c'est l'amour qui nous rendra plus dignes, c'est l'amour qui nous rendra plus capables de vivre ensemble, d'être unis et de construire la paix dans un monde qui en a tellement besoin, un monde tellement désespéré, un monde tellement douloureux. Aimons-le, ce monde, et cessons de le juger. Amen.